Donc, bonjour à tous et merci d'être encore là pour cette dernière présentation de la journée. Le travail que je vais vous présenter a aussi été réalisé dans le cadre du projet Biomaro, donc porté par l'INRA Orléans, Marc Villard, dans la première phase en fait de ce projet Biomaro. Donc, pour commencer, quelques mots sur les banques de graines du sol. Donc, il s'agit d'une accumulation en fait de graines dans le sol qui proviennent donc de la végétation établie, donc soit la végétation établie du site ou une végétation établie d'ailleurs en fait, et les graines sont arrivées par différents vecteurs de transport comme l'eau, comme le vent, etc. Alors, pour qu'il y ait accumulation de graines dans le sol, il faut que les graines ne germent pas immédiatement. Donc, il faut une certaine forme de dormance. Donc, cette dormance peut être plus ou moins prolongée, peut être levée par différents types de conditions environnementales. Stimuli, ça peut être la température, des alternances de température, la luminosité, etc. Donc, en fonction des espèces, différentes modalités. Et puis, en fait, pour que les graines s'accumulent dans le sol sur long terme, il faut aussi qu'elles restent viables. Et donc, là aussi, il y a des grosses différences de viabilité en fonction des espèces. Et donc, dans la littérature, on distingue des banques de graines transitoires, où les graines vont rester dans le sol et viables moins d'un an, des banques de graines permanentes, mais plutôt à moyen terme, donc moins de 5 ans, et permanentes, plus de 5 ans. Alors, donc, actuellement, on s'intéresse en écologie de plus en plus à ces banques de graines, parce qu'à la fois, ça peut être intéressant pour des projets de restauration. Ces banques de graines sont les témoins de la végétation passée d'un site. Donc, s'il y a des espèces intéressantes dedans et en risque, et on peut réactiver, en fait, lever des dormances dans ces espèces, donc ça permet de recréer une ancienne végétation. En même temps, c'est aussi un témoin de la végétation régionale, donc si les graines se déplacent, donc notamment dans le contexte d'une plaine alluviale où les graines voyagent pas mal avec l'eau. Et puis, en plus, ça peut être la végétation, donc ce qui est en lien avec le premier point, la végétation potentielle d'un site. Donc, voilà. Donc, les grandes questions qu'on se pose, c'est notamment maintenant un peu concernant l'écologie des espèces, donc quelles espèces forment quel type de banque de graines. Quel est le lien entre la banque de graines d'un site et la végétation établie, donc par rapport à la végétation régionale ou la végétation passée. Et quel type de banque de graines, donc permanente ou transitoire, se forme sous quelles conditions? Alors, le projet concerne donc la banque de graines de la plaine alluviale d'un grand cours d'eau. Et à notre connaissance, en fait, c'est le premier travail en fait qui va prendre en compte un aussi large gradient, donc un travail plutôt prospectif, qui a donc lieu sur le site de la réserve naturelle régionale de Saint-Mémin, donc à Mahaut-près. Il s'agit d'un complexe d'îlots qui va en fait abriter différents stades d'une succession végétale alluviale, donc des grèves nues jusqu'à la forêt mature qui va être dominée par des essences à bois dur. Et donc, nous avons échantillonné aussi bien la végétation établie que la banque de graines. Et quatre grands types d'habitats ont été pris en compte, donc le stade le plus jeune, les grèves, le stade de peupleraie arbustive, donc peuplier noir, un stade de forêt de bois tendre dominé par les peupliers, un stade qui se situe à peu près à une élévation topographique similaire qui sont les prairies à chiens dents, et puis la forêt de bois dur, ici c'est plus une forêt de transition puisqu'il y a encore quelques peupliers noirs qui subsistent. Alors, comment l'étude a été menée? Donc, la végétation établie a été étudiée sur des placettes de 5 mètres sur 5 mètres en regardant les abondances dominances des différentes espèces. Il y avait 3 réplicards par type d'habitat. Et sur ces mêmes placettes ont été pris des échantillons de sol sur les 6 premiers centimètres. 9 échantillons échantillon par placette qu'on a mélangé, donc pour avoir un échantillon global par placette. Et donc suite à ça, ça a été fait en été. Ces échantillons ont été stockés pendant l'hiver et pour simuler en fait ce qui se passe pour la plupart des habitats dans la plaine alluviale pendant une année hydrologique, on va dire, standard. Donc, il y a inondation, les stades les plus jeunes. Donc, ces échantillons ont été gardés au frais et couverts d'eau. Ensuite, l'année d'après, on les a mis à germer, donc avec différents traitements. Et donc, on a identifié les graines germées, en fait, les plantules. Donc, c'est une estimation de la composition spécifique de cette banque de graines. Donc, au bout d'un an, on a aussi trié les substrats qui sont restés et puis on a extrait les graines qui étaient dedans et les graines ont été quantifiées et identifiées. On a aussi recherché des informations sur la longévité des graines en consultant une base de données, la base de données LEDA, qui est donc disponible sur Internet. Alors, donc... qu'est-ce qu'on a fait avec ces données? On a tenté à comparer les caractéristiques de la banque de graines aux caractéristiques de la végétation en place à travers cette gamme d'habitats en regardant l'abondance, richesse spécifique, etc. Donc, un certain nombre d'indicateurs. Et puis, suite à des informations trouvées dans la littérature sur d'autres type de milieu, en fait, un certain nombre d'hypothèses ont été mises. Donc, la première a été, puisqu'on est dans un contexte, en fait, de plaines alluviales ou dans les milieux les plus jeunes, l'eau va apporter des graines ou aussi des propagules végétatifs, en fait, de tout le bassin versant, potentiellement. L'hypothèse était que... la composition de la banque de graines va être relativement homogène dans ces habitats. Par contre, quand on avance dans la succession, l'apport de la végétation locale serait de plus en plus importante. Et donc, quelque part, il y aura accumulation de graines autour d'un pied d'une plante mère. Et donc, on aurait quelque chose de beaucoup plus partage. Donc, la deuxième hypothèse... c'était en fait que, il faut que je le relise moi-même, oui, en fait, ça, c'était déjà la deuxième. L'hypothèse était aussi qu'en cours de succession, la densité de banque de graines va augmenter puisqu'elle s'enrichit de plus en plus. Et du coup, la similarité entre banque de graines et végétation va diminuer au cours du temps puisqu'il y a la végétation va devenir plus dense, il y a des phénomènes de compétition qui vont se mettre en place, et donc ce qu'on trouve dans la végétation en place ne va pas forcément correspondre à ce qu'on trouve à la banque de graines. Donc c'est dérivé ce qui a été trouvé sur d'autres types de milieux. Alors, concernant maintenant les résultats, nous avons trouvé dans les échantillons 816 graines germées, ensuite un peu plus de 900 graines sont restées dans les sédiments qui n'ont pas germé. Il y avait des plantules, 35 espèces, et puis 21 espèces supplémentaires ont été trouvées parmi les graines qui n'avaient pas germé. Ici, vous avez une représentation en fait, des différents types d'habitats. Donc, ça va de la gauche des habitats les plus jeunes, vers la droite, les habitats plus âgés. Donc, concernant les densités de graines, en fait, en moyenne, il n'y avait pas vraiment de différence significative. Par contre, on observe des différences dans les variabilités de ces habitats, qui étaient particulièrement fortes, donc, sur les grèves. EPS, ça veut dire peupleraie arbustive, donc en anglais. Donc, les deux premiers stades montrent la plus forte variabilité. Donc, concernant les richesses spécifiques, donc là aussi, beaucoup de variabilité. Les différences qu'on observe ici visuellement, en fait, sont statistiquement pas significatives. Oh, Oui, d'accord, ça ressemble, ça reprend ce que je viens de dire. Alors maintenant, concernant la végétation établie, donc nous avons comparé. Là aussi, il y avait des variations ou des tendances de variation qui apparaissent avec des nombres d'espèces un peu plus faibles pour les végétations les plus denses, qui sont donc les prairies à chiens dents et la forêt mature. Par contre, là aussi, pas de... il y a une tendance, en fait. On est donc à l'approche de la significativité statistique. Et quand on s'intéresse maintenant un peu plus à la composition des banques de graines, donc ils ont été ordonnés par méthode multivariée. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette méthode. Donc vous avez sur la gauche, vous avez la projection des espèces. Et puis sur la droite, vous avez donc ici les cinq habitats et les points et les ellipses délimitent les placettes qui appartiennent à un même habitat. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, que vous avez sur le deuxième axe, donc de haut en bas, on retrouve en fait la succession. On voit aussi que c'est surtout la forêt mature, en fait, qui se singularise par rapport à sa composition spécifique. Quand on compare ça avec la végétation établie, c'est une analyse analogue. Donc là aussi, on retrouve le gradient de succession. Donc là, ce sont plutôt des grèves qui singularisent par rapport à la composition spécifique. Donc on voit aussi en haut à gauche, on voit aussi cette petite tache, donc avec des espèces typiquement de grèves comme le xanthium. Vous avez des rorypes, donc un certain nombre de d'hélophytes qui montrent donc qu'on est proche de l'eau. Alors maintenant, si on veut comparer les deux, la banque de graines avec la végétation établie, on peut calculer les indices de similarité. Donc nous avons calculé l'indice de Sorensen qui, grosso modo, en fait, compare les espèces communes aux deux listes floristiques par rapport aux espèces qui ne sont pas communes. Donc quelque part, ça donne la part des espèces communes dans l'ensemble des espèces. Donc, globalement, on a des valeurs qui se situent donc, moins de 5 à 20 % à peu près. Donc, ce sont, quand on compare ça à d'autres types de milieux, ce sont des valeurs qui sont plutôt modestes. Bon, il peut y avoir plus faibles, mais aussi plus importantes. Par contre, là encore, donc, il y a une tendance à voir une similarité qui est plus faible dans la prairie, dans la peuplerie arbustive, mais là encore, les différences globales ne sont pas significativement différentes. Bon, là aussi, on rentre un peu dans le détail des espèces les plus abondantes qui ont été retrouvées. Donc, c'est un graphique qui a listé pour chacun des compartiments, donc végétation établie, banque de graines révélées par germination et banque de graines révélées par graines restées dans le sédiment, en fait les espèces les plus fréquentes. Donc vous avez pour la végétation établie, la somme des abondances était la plus grande pour Populus nigra, donc le peuplier noir. Pour la partie des germinations, c'était l'île dernière d'Oubia. Et puis pour les graines restées dans les sédiments, c'est Portulaca oleracea. Ce qui est assez intéressant, en fait, que chaque compartiment, quelque part, est dominé par une espèce. Bon, là, ça va être un graphique qui est un peu compliqué à lire. Bon, je vais vous le commenter, donc on ne va pas regarder en détail. Donc là, en fait, on a repris ces 10 espèces. Bon, là, ils sont ordonnés par ordre alphabétique. Et puis, en fait, vous avez dans les différentes barres, ça montre le compartiment où on les trouve. Donc, ce qui est noir, c'est ce qui a été révélé par germination. Ce qui est gris, c'est ce qui restait dans les sédiments. Ce qui est blanc, ce qui était dans la végétation établie. Et puis, vous avez donc, de gauche à droite, les différents types d'habitats. Alors, bon, je vais vous donner quelques indications. Alors, vous avez quelques espèces, en fait, qui ont été retrouvées uniquement dans la végétation établie. Donc, comme à Cernigondo, les chiens dents, Phalaris et Populus nigra. Ce que vous avez aussi sur la droite, c'est un indice de longévité. Donc, ça sort de la base de données LEDA. Alors, quand l'indice est 1, ça veut dire que toutes les observations qui ont été faites indiquent une banque de graines à longévité permanente. Donc, 1, ça veut dire longévité forte. Quand c'est 0, aucune étude a démontré en fait qu'il y a une banque de graines permanente. Et donc, quand on est entre les deux, bon, c'est le cas pour la plupart des études. Ici, il y a des informations contradictoires. Donc, plus c'est élevé, plus ça veut dire on tend vers une longévité. Donc, je me dépêche. Alors, pour la plupart des espèces, on observe que l'espèce a été trouvée dans la végétation établie, donc ce qui est en bleu foncé, par contre dans la banque de graines sur une gamme d'habitats beaucoup plus large. Donc vous avez pas mal d'espèces en fait qui sont présentes dans la banque, dans les milieux pionniers. Par contre, leur banque de graines, on va les retrouver jusqu'au stade les plus avancés. Ce qui montre en fait qu'on a un transport de graines en fait qui va aussi être transversal à travers ces habitats. Bon, si je reviens maintenant sur la conclusion, donc pour les hypothèses qu'on avait formulées au départ, il n'y a aucune qui est vraiment vérifiée. Donc, ce qui suggère qu'il y a pour ces types de milieux un fonctionnement qui est singulier, qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres séries successionnelles. Et donc, on peut penser que c'est en lien, en fait, avec cette très forte perturbation, notamment dans les milieux pionniers, puisque, en fait, les crues qui arrivent tous les ans vont éroder une partie des sédiments, peuvent déposer d'autres sédiments, peuvent déposer des graines, peuvent enlever des graines, ce qui ne fait pas une banque de graines qui va, en fait, s'accumuler tranquillement au cours du temps. En même temps, en fait, cet facteur de dispersion va être très fort et va donc se transmettre à travers toute cette plaine alluviale. Par contre, on va dire, le détail de ces processus et la quantification restera à être étudié. Donc, ça donne des belles perspectives. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie notamment mes stagiaires qui ont fait la plupart des déterminations.